дал он листву, а дал нам вон лагу. Fila non da dondendo, san tout en a elva vabro. Bea zo plast en o kichen, evidant den zo en anken.
Les murs, quelquefois même sur leurs chaussures, pissés debout, ça les rassure. Les hommes sont leurs petits jets horizontaux, leurs petits siphons, leurs deux babales, peuvent jouer à la bataille navale. Les hommes sont leurs petits sept dans leurs culottes, leurs petits périscopes sous la flotte, sont le bâton et la carotte. Les hommes. De ce bout de bidoche qui leur pendouille sous la brioche, ils font des guerres, ils font des mioches. Les hommes, ils se racontent leurs conquêtes, leurs péripéties de braguette, dans des gros rires à la buvette. Les hommes, ils se racontent leurs guéguerres, leur nostalgie de militaire, une larme à la paupière. Les hommes, virilité en bandoulière, orgueil roulé en bande moltière, agressivité en œillère. Les hommes, ils te traiteront de pédé, de gonzesse, de dégonflé, à moins d'une sorte de hors-cité. Un homme, ils aiment les femmes comme des fous, c'est si pervers mais c'est si doux, enfin quoi c'est pas comme nous. Les hommes aiment les femmes à la folie, passives, muettes, mais jolies, de préférence dans le lit. Les hommes, au baby-room ou au boudoir, à la tortore ou au trottoir, aiment les femmes sans espoir. Les hommes, prostituées ou pénélope, apprivoisées ou antilope, toutes les femmes sont des salopes pour les hommes. C'est en 93, je crois, qu'ils ont tué la femme du roi et la déclaration des droits de l'homme. C'est depuis 2000 ans, je pense, qu'ils décapitent en silence les femmes d'ailleurs et de France. Les hommes sont abattus les Tibétaines, sont fricassés les Africaines, sont indignés les Indiennes. Les hommes ont mis le voile aux Algériennes, la chasteté aux châtelaines et le tablier à Mémène. Les hommes, excusez-moi, démocrate, phallocrate, des jugements pour la prostate. Les hommes, excusez-moi, mais je me tire sans un regret, sans un soupir de votre mafia, votre empire. Les hommes, chacun sa révolution, aurais-je seulement des compagnons qui partagent l'indignation. À chacun sa révolution, aurais-je seulement trois compagnons qui partagent l'indignation d'un homme.
Comme les anges, à l'œil fauve, je reviendrai dans ton alcôve, et vers toi glisserai sans bruit, avec les ombres de la nuit. Et je te donnerai ma brune, des baisers froids
et des caresses de serpents autour d'une fosse rampant. Quand viendra le matin livide, tu trouveras ma place vide où jusqu'au soir il fera froid. Comme d'autres par la tendresse sur ta vie et sur ta jeunesse, moi je veux régner par les
l'avait voulu, l'enturlurette, l'enturlu, j'aurais connu la Cléopâtre et je ne t'aurais pas connu. J'aurais connu la Cléopâtre et je ne t'aurais pas connu. Sans ton amour que j'idolâtre, là que fussais-je devenu. Si le bon Dieu l'avait voulu, j'aurais connu la Messaline, Agnès, Odette et Mélusine, et je ne t'aurais pas connu. J'aurais connu la Pompadour, Noémie, Sarah, Rebecca, la fille du Royal Tambour, et la Mogador et Clara. Mais le bon Dieu n'a pas voulu que je connaisse leurs amours. Je t'ai connu, tu m'as connu, gloire à Dieu au plus haut des nus. Là que fussais-je devenu, sans toi la nuit, sans toi le jour. Je t'ai connu, tu m'as connu, gloire à Dieu au plus haut des nus.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Le cogne à ton caveau, en rêvant d'entendre gueuler ton caniche cabot, et toi le reprendre. Mais si t'es là endormi, c'est pour un maman. Tu manques à maman, mamie, tu manques à maman. Elle t'a rendu ton époux, et fait maintenant d'une pierre tombale deux coups, les noces du néant, puisque vous étiez promis éternellement. Tu manques à maman, mamie, tu manques à maman. Elle passe arrosée du vent, sous des cieux qui pleuvent, l'absence conne, en enviant tous ces gens qui peuvent rester de marbre parmi ces froids monuments. Tu manques à maman, mamie, tu manques à maman. Elle remplace au mapolette des fleurs assoupies. Ton fantôme se reflète dans de l'eau croupie, mais la mémoire ennemie va se déformant. Tu manques à maman, mamie, tu manques à maman. Elle vient t'avouer en douce des trucs à la bourre, mange un secret sur le pouce, découvrant que pour être orpheline elle a mis 50 ans bêtement. Tu manques à maman, mamie, tu manques à maman. Elle te quitte et promet qu'elle viendra plus souvent apprivoiser ses séquelles pour les survivants. Même si mourir c'est permis, d'y penser seulement. Tu manques à maman, mamie, tu manques à maman. Tu manques. Et si mourir c'est permis, c'est d'y penser seulement. Tu manques.
J'en aurais piétiné des estrades ou des scènes de haute tenue, sous les feux de couleurs en cascade et devant des amis inconnus. J'en aurais tourné des chansonnettes pour éclairer de tristes matins et crier des angoisses secrètes que chacune rejette ou retient. J'en aurais fatigué des estrades. J'en aurais délivré des chansons. J'en aurais maquillé des détresses, des grimaces dans mon baluchon.
Au cognac et au marsala, nous avons eu Marie Ficelle qui revenait de Douala, qui revenait de Douala et qui ch'touillait le colonel. De jolies putes, vraiment, et un vraiment bien beau bordel. Même Kadakar, ça je peux le dire, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil. Nous avons eu Lulu mange tout, Nana Frisson et Miss Poil Poil, celle qui rendait les hommes fous quand elle dansait avec ses voiles, qui cachait même pas son père ni ses six poils de salsifis. Nous avons eu Nini Donfleur, nous avons eu Nini Donfleur, et Rita, et Rita, et Rita qui pissait au lit. De jolies putes vraiment, il y a vraiment bien beau bordel. Même Kadakar, ça je peux le dire, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil. Nous avons eu Bébé Fortiche qui était tatouée de bas en haut. Elle avait des cœurs sur les miches et les noms de nos généraux calligraphiés sur sa praline, calligraphiés sur sa praline. Nous avons eu Mademoiselle Monsieur, un ancien paradadochine, un ancien paradadochine qui avait vraiment pas froid aux yeux. De jolies putes vraiment, et un vraiment bien beau bordel. Même que Dakar, ça je peux le dire, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil. De jolies putes vraiment, et un vraiment bien beau bordel, même Kadaka. Il n'en avait pas de pareil, non, il n'en avait pas de pareil.
De chez moi au coin de ma rue, ça swing sur le trottoir. Un saltimbanque de fortune, des gaines de routard et vieille guitare. Chante ses peines et ses joies, contre une pièce ou un sourire. Des chansons venues d'autrefois, des voyages à n'en plus finir. Raconte-nous pourquoi tu chantes, pourquoi tu vis, pourquoi tu danses. Comme cette musique insolente qui résonne et jamais ne renonce. Et chante, chante, vieux tigane, vieux manouche du ghetto. Mais si ta vie est ton âme, tes corps usés à fleur de peau. Et chante, chante, vieux tigane, vieux manouche du ghetto. Mais si ta vie est ton âme, tes corps usés à fleur de peau. Et donne le blues de Robert Johnson, le rap des griots du ghetto, la poésie de Jill Scott Heron, la fièvre des townships de Soweto. derrière les murs de la prison. B.B. King gratte sa Lucille. Le temps s'est fait une raison. Le frisson n'est jamais parti. En passant par la Havane, amène-nous sur l'autre rive. Débarque-nous à Trenchtown, là où Bob a tué le shérif. Et chante, chante, viens Tigane, viens Malouche du ghetto. Mais si ta vie est ton âme, t'es conduisé à fleur de peau. Et chante, chante, viens Tigane, viens Malouche du ghetto. Mais si ta vie est ton âme, t'es conduisé à fleur de peau. De ces bâtiments faits de béton et de ciment qui portent tous un nom de fleur, d'aviateur ou d'explorateur. Toi l'éternel voyageur, l'ami des rebelles du désert, emporte-nous pendant des heures au son des mots d'Aimé Césaire. Rends-nous heureux, rends-nous fiers de nos héros, de nos poètes. Fais-les renaître sous nos fenêtres, enchante-nous de tout ton être. Et chante, chante, vieux Tigane, vieux Malouche du ghetto. Mais si ta vie est ton âme, t'es conduisé à fleur de peau. Et chante, chante, vieux Tigane, vieux Malouche du ghetto. Mais si ta vie est ton âme, t'es conduisé à fleur de peau. Et chante, chante, vieux Tigane, vieux Malouche du ghetto. Mais si ta vie est ton âme, t'es conduisé à fleur de peau. Et chante, chante, vieux Tigane, vieux Malouche du ghetto. Mais si ta vie est ton âme, t'es conduisé à fleur de peau.
Les sabots d'Hélène étaient tout rôtis. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine. Et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine. Toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène. Va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de les déchausser, les sabots d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée dans les sabots de la pauvre Hélène, dans ses sabots crottés. Moi j'ai trouvé les pieds d'une reine et je les ai gardés. Son jupon de laine était tout mité. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine. Et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine. Toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène. Va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de le retrousser, le jupon d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée sous le jupon de la pauvre Hélène, sous son jupon mité. Moi j'ai trouvé des jambes de reine et je les ai gardées. Et le cœur d'Hélène ne savait pas chanter. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine. Et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine. Toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène. Va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de m'y arrêter dans le cœur d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée. Et dans le cœur de la pauvre Hélène qui avait jamais chanté, moi j'ai trouvé l'amour d'une reine et moi je l'ai gardé.
Voyant tes remous, tes ressacs, tout au long du quai rectiligne, un moment je t'avais cru digne de m'écouter vider mon sac. Tout comme on parle dans l'oreille d'un chien compagnon de malheur, quand on n'a pas assez d'oseille pour s'approprier la blondeur d'une fille à la peau bien tendre, qui fait bien semblant de comprendre et vous vend un peu de douceur. J'allais te confier mes alarmes, mes fatigues et mes regrets. C'est bête à dire, j'étais prêt à te grossir de quelques larmes. Contenu depuis trop de jours et d'amertume bien salée, mais ta flotte s'en est allée, insensible, suivant son cours, roulant au pied de l'escalier, tant de mètres cubes à l'heure. T'en fous qu'on vive ou qu'on meure, t'es plus belle qu'un sablier. C'est normal, t'es un personnage, ta place est faite au grand soleil, les hommes et toi, c'est tout pareil, y'a pas de pitié qui surnage. T'es vaseuse dans ton tréfonds, moi je m'en vais, adieu la scène. Tu sais, avant que je revienne, de l'eau coulera sous tes ponts.
Faits divers ne s'est pas composé sur le mode sentimental. C'est une œuvre d'action, de faits, d'accidents musicaux qui se pulvérisent en écrits sonores brefs, librement associés et terriblement mixés à contrario. Un feu latent mais sauvage couve dans mes faits divers. Mélanges et anecdotes, faits d'armes des années 50, voix de faits, épisodes, péripéties, tout un potentiel fictionnel qui doit s'écouter sans repère. Au fond, des petites histoires d'aujourd'hui naissent. En tête, en queue de mes anciennes phrases musicales, on retrouve les objets sonores, engrangés depuis les folles années de la musique concrète. Courbes de réponses insoumises, insolentes. Ici et là, de nouveaux aphorismes apparaissent. Ils ne se développeront que par la subversion et l'analogie.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Je
J'ai connu de vous de folles caresses, des moments très doux, tout plein de tendresse. J'ai connu de vous votre corps troublant, vos yeux de petit loup, vos jolies dents. Et j'ai connu de vous toutes les extases, tous les rendez-vous et toutes les phrases. Vous voyez, madame, que l'on n'oublie pas tout. Moi, je pense encore à vous. Je me souviens de la boutique où l'on s'est rencontré un soir, et je revois les nuits magiques où l'on de cœur battait, battait rempli d'espoir. Quand on a connu les mêmes ivresses et qu'on ne s'aime plus, il y a la tendresse. Vous voyez, madame, que l'on n'oublie pas tout. Moi, je pense encore à vous. Et j'ai connu de vous les soupes brûlées, les ragoûts trop doux, les tartes salées. Pour un oui, un non, vous sautiez du balcon. Tranquille, je vous laissais tomber du rez-de-chaussée. Et j'ai connu de vous les assiettes qui volent, les soirs de courroux, quand vous étiez folle. Vous voyez, madame, que l'on n'oublie pas tout. Moi, je pense encore à vous. Je me souviens de la cuisine où très gentiment voisinait le poivre avec la naphtaline, le sucre, la moutarde, le lait, la chicorée. Quand on a connu les mêmes ivresses et qu'on ne s'aime plus, il y a la tendresse. Vous voyez, madame, que l'on n'oublie pas tout. Moi, je pense encore à vous. Moi, je pense encore. Moi, je pense encore. Moi, je pense encore à vous.
Ton père avait 14 enfants, et si je te nippe chez Dior maintenant, aucun rapport évidemment. Ta vertu s'est mal défendue, jamais personne n'en a rien su, mais quand je l'ai su, il n'y en avait plus. La vie moderne, t'avais un nez comme Cyrano, un grand, un bat, un rigolo, un vrai radar à gigolo. Depuis qu'on me l'a récupéré dans une clinique à bon marché, je peux même plus renifler les michets. La vie moderne, vie moderne. Avec des ronds de fécondants, la biologie fait des enfants qui rentrent tout seuls chez leur maman. Dans les labos, y a des cornues, et dans la rue, y a plus de cocu. La poule fait l'œuf, mais ne chante plus. La vie moderne, vie moderne. Les journaux, c'est comme les pansements, faut en changer de temps en temps, sinon ça vous froisse les idées. D'abord, faut pas d'idées, car les idées ça fait penser, et les pensées ça fait gueuler. La vie moderne, vie moderne.
Et montez la vie moderne, et montez la vie moderne, et montez la vie moderne, vie moderne.
Y'a un monsieur qui vient chez toi, chaque fois qu'il rentre, c'est du pied droit, le gauche c'est pour les bonnes manières. Sagan tutti quanti, quant à Balzac il se demande si c'est un gazier ou un hôtel. la vie moderne. Vie moderne. Balzac, Balzac, attendez. Ça me dit quelque chose, Balzac. Il y a des gens qui font exotique, qui pour bouffer à l'as de pique s'en iraient même jusqu'à Pékin. Moi sans visa ni prospectus, avec un carnet d'autobus, je vois des tas de gens et je vais pas loin. La vie moderne, vie moderne. Pardon monsieur, pour Pékin. Pour Pékin, vous descendez à la Nation, et puis là-bas vous prenez à droite ou à gauche. Enfin, vous demanderez, hein? Au revoir. Les magasins sont débordés, on y vend des diamants papier, de ceux qu'on peut pas vous faucher. Des mouchoirs qui ne servent qu'une seule fois, comme ça au moins on sait à quoi ça sert d'avoir 10 doigts. La vie moderne, vie moderne. C'est comme les machines à laver, ça vous lessive tout un quartier, et puis ça se passe incognito. C'est pas comme celle du Portugal, si elle l'avait y'aurait pas de mal, mais elle repasse à la radio. La vie moderne, vie moderne. La gloire c'est comme le sexe à pile, faut du rimmel pour pas qu'elle file ou qu'elle finisse dans un potin. Faut la traiter comme une copine, ici, ailleurs ou chez Maxime, et puis l'asseoir sur le bottin. La vie moderne, vie moderne. Y'a la nature qui est en folie, dans les sillons ça fait du bruit, c'est la Marseillaise du printemps. Les feuilles des arbres se font jolies, y'a de la chlorophylle dans leur lit, pour qu'on se rince l'œil et puis les dents. La vie moderne, vie moderne. Souriez, mais souriez. Dans les usines, y a plus personne, ça fait plus net quand midi sonne, et que Miss Robot danse la polka. Y a des boulons électroniques qui se visent tout seuls, c'est fantastique, et qui vont pas au syndicat. Ah, dis donc, mais c'est intéressant ça. Hein? La vie moderne, vie moderne, vie moderne. Grand-mère avait les cheveux longs, grand-papa lui roulait le chignon,
en recoulant comme un pigeon. Oh.
Ton Jules à toi roule ses mégots, en se disant qu'elle est le saligo, qu'a brouté le blé que t'avais dans le dos. La vie moderne, vie moderne. À New York, il y a des maisons qui chatouillent les pieds du patron, qui chaussent du 45 hectares. À Paris, il y a des sous-sols où l'on cause avec des bémols qui grattent le ciel comme une guitare. La vie moderne, vie moderne, vie.
S'extraire au petit jour de la torpeur du lit, ouvrir grand les volets sur le vol des courlis, faire du café très fort, le boire à la fenêtre, respirer, expirer et se sentir renaître. Se dire qu'il faudrait bien rentrer chaise et table, mais attendre pour ça des temps moins délectables. La descendre au jardin, crissant sous la gelée. Redresser les dahlias à l'envi de la lune. Ne pas lire le courrier, ne pas lire les journaux, les jeter tout en tas au loin sur le piano. Puis verser dans le bain l'huile d'amande douce, faire glisser le peignoir et sombrer dans la mousse. Déjeuner sur la nappe de fil d'Écosse écrue, dans de l'ancien moutier d'un peu de jambon cru. Sainte Louise, bonne duchesse d'Angoulême, faire du choix d'une poire, un délicieux dilemme. Cueillir au bord du champ tout ce qui est violet, scabieux, astère, chardon, clématite à la haie. Aimer longtemps ses fleurs, des herbes de toutes sortes. Composer un poème pareil aux natures mortes. Puis prendre au vol un livre tombé sur le plaisir. Mais l'abandonner vite pour un roman idiot. Vers la tombée du jour interroger les cartes. Éplucher quatre pommes. En faire une tarte. Écouter dans le soir le long aboiement d'un chien. Regarder sur les prés la brume qui s'en vient. Un instant deviner des présences invisibles, frissonner et fermer cette maison paisible.
Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de CIVIPACEM. Vous êtes sur Radio Libertaire avec l'Union Pacifiste. Vous allez écouter une émission enregistrée par Bernard Bessa, donc une rediffusion intitulée « Enfants de Palestine ».
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal, on l'a traîné, et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme on a mes consciences, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Alors, pendant que la guerre conduite par l'armée israélienne continue en Iran et au Liban, les médias parlent moins aujourd'hui des populations palestiniennes qui continuent à souffrir et à mourir à Gaza. Omar Al-Soumi, militant d'Urgence Palestine, a publié en 2026 un livre intitulé « Enfants de Gaza ». Le 12 mai 2026, Omar Al-Soumi a été invité sur la chaîne YouTube intitulée « Mizan TV » pour présenter son livre. Je vous propose d'écouter cet entretien qui raconte comment un Palestinien né en France, dans le 19e arrondissement de Paris, militant formé aux sciences politiques et à la littérature, a renoué, au fil de son parcours, avec la langue arabe, avec l'islam, et a puisé sa force dans la cause palestinienne. Omar Al-Soumi, très tôt engagé dans des missions civiles, a organisé des camps d'été en Palestine. Il est à l'origine de Génération Palestine, organisation de jeunesse majeure dans la politisation de personnes non blanches dans les années 2000. Il a pris part ensuite au lancement de l'association BDS France en 2009, puis de Boussole Palestine en 2021 et 2022, et enfin d'Urgence Palestine. Alors donc, nous écoutons maintenant Omar Al-Soumi.
Je m'appelle Omar Al-Soumi, je suis né en France. Mon père est palestinien, ma mère yougoslave. Je suis militant pour la libération de mon peuple, de notre terre. Je fais partie fièrement du collectif Urgence Palestine et je navigue entre paysans, écrivains, différents projets et espaces de lutte. Et je suis aujourd'hui là notamment pour ce livre « Enfants de Palestine ».
Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre et dans quel état d'esprit l'avez-vous rédigé ?
C'est un livre qui a été écrit dans la nuit coloniale, dans ces moments angoissés du génocide du peuple palestinien à Gaza et dans le reste de la Palestine. J'ai commencé à écrire à l'invitation de Fatima Wasak, qui lançait cette collection aux éditions Les Liens qui Libèrent. La collection, c'est Écologie de la Libération. Et donc, j'ai commencé à écrire à l'été 2024, donc à une période où on est déjà à près d'un an de guerre génocidaire contre le peuple palestinien. Un moment, je dois le dire aussi, qui est pour moi un moment d'un relatif épuisement. Après une année de lutte sur le bitume parisien, dans l'incertitude, des manifestations interdites, d'une répression extraordinairement violente. Et en même temps, j'ai tenté d'écrire depuis cet endroit qui est celui justement où on tient bon. Celui de notre résistance, de sa longue histoire, de cet héritage accumulé au fil des générations. Et ce livre, c'est à la fois une opportunité et en fait une nécessité. Une opportunité qui m'est offerte par une maison d'édition qui décide de donner leur place à des analyses palestiniennes qu'on entend très peu en France. Et en même temps, une responsabilité parce que, palestinien, je suis porteur de cette longue histoire de lutte qui permet aussi de regarder avec plus de finesse et j'espère plus d'intelligence politique et stratégique les défis de notre génération qui est aujourd'hui encore aux prises avec ce régime colonial raciste auquel on souhaite mettre fin.
Vous êtes paysan, Omar Al-Soumi. Qu'est-ce que ça change dans votre rapport à la terre de Palestine ?
En fait, paysan, je l'explique dans le livre, c'est à la fois littéral et finalement surtout symbolique. On peut dire d'une certaine façon que Je suis plus paysan depuis le 7 octobre 2023. J'avais eu la chance de travailler pendant un peu plus d'un an aux côtés de mon épouse qui est maraîchère dans cette ferme agroécologique qui est un lieu de réenracinement pour nous, enfants de l'exil. Et en même temps, depuis le 7 octobre, j'ai été cantonné au bitume parisien à essayer de faire pousser ces graines de résistance, de conscience, de libération. Et finalement, je me rends compte que tout ce que j'ai appris en travaillant à la ferme, dans ces cycles du vivant, dans ces cycles des saisons, c'est quelque chose qui m'a renforcé aussi pour être un militant plus efficace, j'espère, dans la façon dont on gère ces phénomènes vivants, que sont aussi nos luttes, nos mouvements sociaux. Et j'ai tendance à croire aujourd'hui qu'on appréhende mieux nos luttes à partir aussi de ces méthodes qui sont empreintes de sagesse, qui sont celles de nos cultures paysannes, qui sont celles de nos peuples enracinés, et qui permettent de mieux construire des mouvements vivants et capables de triompher de la froideur stérile de la modernité occidentale, et notamment du colonialisme sioniste.
En 2021, vous dites avoir profondément remis en question vos certitudes. Pouvez-vous nous raconter ce tournant et ce qui a motivé cette transformation ?
2021, c'est à la fois un tournant politique collectif, souvent ignoré, y compris dans les espaces de solidarité avec la Palestine, et un tournant très intime pour moi, celui de la crise de la quarantaine. Le tournant politique, c'est 2021, cette bataille qu'on a appelée celle de l'intifada de l'unité, Sheikh Jarrah, Seif al-Quds, un moment de mobilisation qui naît à Jérusalem, al-Quds, dans ces quartiers menacés de judaïsation par le colonialisme israélien, et qui en fait se propage pour atteindre l'ensemble des segments de ce peuple fragmenté. Le peuple palestinien partout se soulève, une intifada, une mobilisation populaire extraordinaire qui va soulever les masses populaires dans les camps de réfugiés de Jenin, de Nablus, Tulkarem, à Bethlehem, dans les villes, les universités, dans les villages, mais aussi à Gaza, qui rentre de toute sa force dans cette bataille pour la préservation du caractère historique de Jérusalem, Al-Quds, et aussi des mobilisations qui, à l'aide de Ramleh, Haifa, viennent en fait colorer à nouveau toute la carte de la Palestine historique, d'une présence palestinienne en lutte, qui affirme en fait la remise en cause de l'ordre colonial israélien. Et cette mobilisation extraordinaire, elle est souvent passée sous les radars des mobilisations, notamment en Occident, qui en réalité, là, souvent ne s'intéresse à la Palestine que quand il y a des martyrs et des victimes palestiniennes. Mais quand le peuple palestinien vit comme ça des moments d'élan, de sursaut, de dignité, c'est moins bien documenté et moins bien transmis par les différentes organisations traditionnelles de la lutte en faveur d'une Palestine libre. L'aspect plus intime pour moi, 2021, c'est la crise de la quarantaine. On peut l'appeler comme ça, mais fondamentalement, dans nos sagesses, il y a des étapes, des caps à franchir. Et pour moi, c'est un moment où je renoue avec la profondeur de cet héritage, de ces liens, et notamment de la profondeur spirituelle de la religion musulmane, du message prophétique, du message de Mohammed a.s., mais aussi de ces figures qui sont celles de ces enfants de Palestine, les plus illustres étant bien sûr Sayyidina Isa a.s., sa mère bénie Mariam. Et renouer avec cet héritage, c'est aussi renouer avec la profondeur intérieure de nos êtres, de nos âmes, de nos consciences. Et c'est donc aussi des choix parfois un peu radicaux qu'il faut prendre pour se départir de ces injonctions qui sont faites par les catégories sociales, par les catégories de pensée qui sont imposées. Et pour moi, ça s'est traduit notamment par le fait de plonger à nouveau dans la richesse de ce patrimoine qui est le nôtre, et aussi de quitter mes activités salariées, mon travail de fonctionnaire, d'enseignant, de formateur et autres petits boulots finalement, pour me jeter pleinement dans ce travail paysan, sur notre ferme. Et finalement, un travail de recherche-action qui vient prolonger aussi d'autres étapes de ma vie, de mes engagements de jeunesse, dans la GUPS, dans Génération Palestine et d'autres cadres d'action militante. Donc, c'est des moments de rupture et de continuité. La continuité, c'est cette recherche fondamentale du haq, de la juste voie pour nos peuples en lutte et nos personnes. Et les ruptures, c'est celles des logiciels, des méthodes, des grammaires avec lesquelles on se situe dans le réel.
Vous parliez à l'instant d'une une des figures prophétiques de l'islam et des religions en général, c'est Sidna Issa, Jésus. Vous le décrivez comme l'enfant de Palestine le plus célèbre. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Omar Al-Soumi?
Pour moi, au-delà des récits dominants, ce qui me semble important, c'est effectivement de renouer avec cette figure qui est vraiment le produit de la terre de Palestine, de cette accumulation qui a lieu dans cet endroit singulier du monde et de l'histoire de l'humanité. La terre de Palestine, à l'époque de la naissance de Sayyidina Issa, alayhi salam, c'est une terre qui est une sédimentation de culture, de sagesse, de vision du monde. Il me semble indispensable de décoloniser la figure de Jésus. La figure de Jésus, elle a servi en fait à une construction qui est fondamentalement, à mon sens, une construction impériale, qui est une sorte de kidnapping, de rapt de la figure de cet enfant de Palestine par l'Empire romain et par les États notamment de l'Europe, de l'Occident, au service d'un projet de domination, alors que fondamentalement, c'est Sayyidna Issa, son message, c'est le message des prophètes, et c'est un message qui est celui de la libération de la conscience humaine, celui de la contestation même révolutionnaire de l'Empire et de ces tyrans qui prétendent gouverner nos vies et nos consciences. On pourrait aller beaucoup plus en profondeur, mais il me semble que l'enjeu fondamental, c'est celui déjà de retrouver cette figure libérée des clichés et des préjugés, et de la retrouver non seulement dans les textes, mais aussi quelque part en nous, dans nos âmes et dans nos consciences.
وجبل دانو وبن لنعبدهم وهم مستعبد يبكي على مستعبدي الكلام بلا فم لا تنذعر هذا الكلام بلا يدي أنا لو عصرت رغيف خبزك في يدي لرأيت منه دمي يسيل على يدي الله أصبح لاجئا يا سيدي صادر إذن حتى بساط المسجد وبع الكنيسة فهي من أملاكه وبع المؤذن في المساد الأسود واطفئ ذبالات النجوم فإنها ستضيء درب التائه المتشرد حتى يتامانا أبوهم غائب صادر يتامانا إذن يا سيد
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire et vous venez d'entendre une composition musicale de la chanteuse palestinienne Rim Banna. Rim Banna était aussi une activiste. Elle est malheureusement décédée le 8 décembre 1966 à Nazareth. Et maintenant, nous reprenons l'entretien du militant d'urgence palestine Omar Al-Soumi qui présente son livre « Enfants de Gaza » sur la chaîne YouTube Mizan TV.
Vous écrivez dans le livre, je cite, « Je ne suis pas qu'une victime, je suis un résistant. La réduction des colonisés à l'alternative morbide entre terroristes ou victimes est la condition du maintien du système colonial. » Omar Al-Soumi, comment dépasser cette assignation réductrice qui pèse sur les peuples colonisés ?
On est regardé alternativement, soit comme une menace ou une opportunité pour l'ordre dominant. Cette réduction à victime ou terroriste, c'est effectivement une façon de nous défaire totalement de notre capacité à choisir ce que nous sommes, ce que nous aspirons à être, individuellement et collectivement, en tant que peuple en lutte contre le colonialisme. Et donc, comment on fait concrètement? Il me semble que c'est là aussi un double chemin. Celui d'une lutte très matérielle qui exige beaucoup de précision tactique, une organisation collective efficace, une capacité à identifier les dangers de ce champ de mine dans lequel on avance. Et en même temps, c'est un chemin intérieur, c'est celui d'une lutte qui implique jusqu'au tréfonds de nos âmes pour ne plus être déterminé par le regard extérieur, qui soit celui de la masse des gens, mais aussi et singulièrement celui de ce système d'oppression qui est le colonialisme. Et donc retrouver notre identité profonde, retrouver cet endroit où on se découvre comme ibad Allah, comme abd Allah, comme personne qui est au-delà de son identité en tant que nationalité, identité de genre, identité professionnelle, toutes ces constructions sociales ne sont que des constructions très relatives finalement. Et donc l'endroit où on est authentiquement libre, c'est celui où nos âmes se libèrent, où la profondeur de nos consciences reprend toute sa force. Et ça, ça exige aussi pour nous, peuple arabe, porteur de la profondeur de la civilisation arabo-musulmane, pour nous palestiniens, palestiniennes, et ça exige aussi de connaître notre langue, de connaître notre patrimoine, et de trouver aussi les bonnes façons de traduire le souffle et l'héritage de la longue histoire de la résistance du peuple palestinien. Et cette résistance aujourd'hui, telle qu'elle est, elle est non seulement la ligne avancée de la lutte contre le fascisme, parce que le fascisme, c'est une longue histoire dont la généalogie, la genèse se trouve dans le colonialisme en réalité, si on suit Aimé Césaire. Donc Gaza aujourd'hui, c'est une ligne avancée de la lutte contre le fascisme. Mais cette résistance réelle, elle a une langue, elle a une inspiration, elle a des textes sacrés. Et ne pas les connaître, ne pas s'y référer, c'est quelque part nous priver de la richesse de ce que ces résistances ont à nous apporter ici, dans un Occident qui est de plus en plus ouvertement tenté par le fascisme génocidaire. Et donc pour mieux lutter, on a besoin aussi de cet enracinement et de cette profondeur.
Vous affirmez que la Palestine nous libère. Que signifie cette idée pour vous personnellement et politiquement, poursuivant le propos ?
La Palestine nous libère, c'est un slogan qui s'est imposé comme ça de façon un peu spontanée, justement en 2021, quand on sentait que il y a certes les luttes de nos peuples, de nos organisations, mais il y a une force plus grande qui dicte la direction de nos recherches et de nos luttes de libération. Et cette force plus grande, elle est une force divine, sacrée, qui nous a fait des promesses, notamment celle que la Palestine, quelle que soit la volonté des tyrans qui prétendent diriger le monde, était promise à une libération. Dans cette libération qui nous est promise, se pose la question de la place que nous allons prendre. Si la Palestine se libère, coûte que coûte, et quoi qu'il advienne, se pose néanmoins la question de notre responsabilité. Qu'allons-nous faire? Quelle place allons-nous prendre dans cette libération inéluctable? Est-ce qu'on va être de celles et ceux qui ont peur de la répression, de celles et ceux qui ont peur des conséquences de la lutte dans ce chemin nécessaire et sacré, ou est-ce qu'on est de celles et ceux qui vont assumer leurs responsabilités et prendre leur part? Et donc c'est une question qui s'est posée de façon extrêmement angoissée pour un certain nombre d'entre nous, et en fait j'espère pour une majorité d'entre nous, au moment où on assistait au génocide du peuple palestinien, à la destruction de nos terres, à la destruction de tout ce qui permet la vie sur la terre de Palestine et même plus généralement dans la région, on s'est tous retrouvés confrontés à cette question. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et il y a à cet endroit aussi un point qui me semble absolument important de développer, de déjouer finalement de la stratégie coloniale. La stratégie coloniale, dans le déploiement de sa force génocidaire, vise toujours en fait à nous sidérer et à prendre le pouvoir sur nos âmes, sur nos consciences, à nous défaire de cette agentivité qui est la nôtre. Et donc un des enjeux très importants, c'est de ne jamais accepter l'idée que le colon serait tout puissant. Le tout puissant pour nous, il est à un autre endroit que celui de ces fanatiques militaires, colons, qui prétendent diriger nos vies, voire les supprimer. La vie telle que nous l'entendons, dans ces messages qui nous viennent de Palestine, dans ces messages qui viennent de nos traditions, la vie authentique, elle est à un autre endroit que celui où ils peuvent nous atteindre, nous torturer, tuer nos enfants. Mais quoi qu'il arrive, il me semble ce qu'on a retenu de Gaza, de la dignité de Gaza, de la force de la Palestine, c'est que même face à la menace du génocide, on peut rester debout et vivant. Et c'est aussi la promesse qui nous est faite, c'est ce qu'on doit à nos martyrs. Nos martyrs sont vivants. Même tués par ces fanatiques armés par les États-Unis et l'Europe, finalement, sur le chemin même du sacrifice de nos vies, nous restons vivants. Parce que la vie authentique, c'est la vie de ces idées qui sont infiniment plus grandes. C'est la vie de cette force qui est infiniment plus grande que celle de ces colons et de ces milliardaires qui prétendent gouverner le monde avec cette arrogance et cette corruption que nos messages et nos prophètes ont toujours sont toujours venus déjouer et affronter. Donc c'est cette conscience historique profonde aussi qui doit nous permettre d'être des résistants plutôt que des victimes dans ce moment terrible de l'histoire de notre humanité.
Omar El-Soumi, vous subissez vous-même la répression en France. Quelle est votre situation actuelle, vous et votre famille?
Je suis souvent tenté de déjouer un petit peu cette question, de mettre en pause tout ce qui concerne la répression dont on fait l'objet quand, encore une fois, aujourd'hui à Gaza, nos frères et sœurs font face à l'infamie de la famine imposée, orchestrée par l'armée israélienne et ses complices, qu'ils soient occidentaux ou arabes. C'est toujours aussi avec une humilité qu'on se dit résistant quand on pense au sacrifice extraordinaire des résistants palestiniens, palestiniennes qui aujourd'hui, dans les tunnels de Gaza, libanais, libanaises, dans les montagnes du sud Liban, arabes, musulmans, de ces différentes organisations de lutte qui se retrouvent dans des camps de la mort, que sont ces prisons israéliennes, où sont systématiquement orchestrées la torture, le viol, les privations et les sévices les plus indicibles.
Et bientôt donc, les peines de mort. Et bientôt les peines de mort.
Et donc voilà, c'est important de toujours rappeler que finalement on n'est que les prolongations infimes de cette force de résistance qui nous vient de Palestine et de cette répression génocidaire qui est orchestrée par Israël et le pouvoir impérialiste qui prétend s'imposer à nous. Et ce dont on fait l'objet ici, ce n'est que la répercussion, le prolongement, une onde en bout de course de cette violence qui s'abat sur nos peuples. Et donc oui, ici aussi, il y a un projet de d'extermination qui se joue avec un autre niveau de violence. Il s'agit de faire disparaître, d'anéantir notre présence en tant que sujet politique, mais on voit bien en fait aussi se déverrouiller cet imaginaire génocidaire qui fait qu'aujourd'hui, les bourgeois corrompus qui prétendent gouverner ces pays sont en fait de plus en plus ouvertement inspirés par le régime israélien et par cette pratique ouverte aujourd'hui du génocide comme mode de gouvernance. Et ils le disent de façon de plus en plus ouverte, cette extrême droite qui est invitée par Netanyahou à célébrer cette nouvelle alliance en fait fasciste qui va de Tel Aviv à Washington en passant par Paris ou la Hongrie. Jordan Bardella, Marion Maréchal Le Pen le disent de façon de plus en plus ouverte. Ils sont séduits par cette façon de gouverner les peuples arabes et musulmans qui est aujourd'hui défendue et mise en œuvre par Israël. Et donc il y a effectivement une répression et des menaces dont on fait l'objet. Je pense qu'il faut les affronter avec beaucoup de calme et de sérénité, de constance et même de reconnaissance parfois. Si on est ciblé, c'est peut-être, j'espère en tout cas, qu'on est capable de dire des vérités qui dérangent, qu'on est capable d'être constant dans cette prolongation du souffle de la résistance palestinienne et de la résistance de nos peuples en général. Et pour répondre à la question quand même, très concrètement, ils ont voulu dissoudre Urgence Palestine, mais Urgence Palestine est toujours là, grâce à la mobilisation populaire, grâce à la mobilisation politique et juridique qui a été la nôtre. 250 000 personnes qui ont signé cette pétition, des centaines d'organisations politiques, syndicales, associatives qui ont dit non à la dissolution d'urgence Palestine. On a fait des recours aux Nations Unies et on se tient prêt quoi qu'il arrive, parce que jusqu'à aujourd'hui, quand la France est interpellée par les rapporteurs spéciaux des Nations Unies, la réponse officielle, c'est cette procédure de dissolution est toujours en cours. Donc on reste dans une menace existentielle et on reste dans une lutte pour la survie. Mais dans la lutte pour la survie, on peut devenir plus fort, on peut être plus organisé, et finalement, c'était notre mot d'ordre depuis le début, la répression doit servir à nous rendre plus aiguisés, plus affûtés, plus efficaces dans notre capacité de mobilisation, et c'est fort heureusement, je pense, ce qui est en train d'advenir aussi pour Urgence Palestine. On est dans un moment là où, déjà on peut le dire et le célébrer, le gouvernement qui prétendait dissoudre Urgence Palestine est aujourd'hui dans les poubelles de l'histoire. La bande à Bétaram, le ministre de l'Intérieur Retailleau ont été contraints de démissionner. Et Urgence Palestine, elle, est toujours là, toujours plus forte et toujours plus déterminée à mener la lutte pour la libération de la Palestine en soutien à la résistance palestinienne.
White dust in the air, a bitter taste. Another day, a life laid waste. Empty bowls and hollow eyes. Underneath these Gaza skies. Whisper soft of what used to be. Stolen home, a broken key. Oh, dear Palestine, your children weep, while shadows long and hunger deep. In Gaza's cage, the spirit strains through bombing nights and pouring pains. A silent cry. Freedom's dawn and dignity. The sun beats down on crumbling stone. A mother sighs, a child alone. No bread to share, no milk to pour. Just echoes haunting every door. On or turns away as hope grows dim with each new day.
Merci d'être à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre une autre composition musicale de la chanteuse palestinienne Rim Banna. Et nous reprenons maintenant l'entretien du militant d'urgence palestine Omar Al-Soumi, qui présente son livre « Enfants de Gaza » sur la chaîne YouTube Mizan TV et qui raconte comment le gouvernement français a décidé de dissoudre l'association Urgence Palestine qu'il avait créée.
Ils n'ont pas réussi à dissoudre Urgence Palestine. Ils sont venus me chercher chez moi, perquisition au mois de novembre dernier, 6h du mat, apologie du terrorisme. Donc ça, maintenant, on est des centaines à travers le pays à avoir fait l'objet de ces accusations fallacieuses et infamantes. Le mot même de terrorisme n'a aucune signification s'il n'est pas appliqué d'abord à l'armée génocidaire israélienne. Et donc c'est évidemment des procès politiques par lesquels ils essayent de nous diffamer. On pense bien sûr à Rima Hassan, mais aussi aux centaines de personnes anonymes qui font l'objet de ces mesures qui peuvent vraiment ruiner des vies. Mais en même temps, je suis là et je peux en témoigner. En étant organisé collectivement, on peut tout à fait traverser aussi ces épreuves sans faire de concessions sur la ligne politique et continuer d'affronter l'arbitraire de cet État sans renoncer à lutter. Parce qu'ils souhaitent nous faire peur, mais ce n'est certainement pas la peur de Macron ou de Retailleau qui doit guider notre engagement. La seule peur que nous avons, c'est de ne pas être fidèles au sacrifice de nos martyrs et à l'exigence de s'engager pleinement pour la justice et pour la libération. Et donc oui, la répression, elle continue, j'ai le désavoi,
ça fait combien
procès
de temps
à venir.
Ça fait un an et demi?
Là, ça fait 12 mois déjà, et donc c'est renouvelé pour encore 6 mois, donc... Et en fait, ça peut être prolongé indéfiniment. C'est vraiment des mesures totalement arbitraires. Ça montre le caractère hypocrite de ces prétendues démocraties libérales qui, en fait, appliquent un droit d'exception à l'endroit de nos corps et de nos êtres arabes et musulmans en lutte, et plus généralement de toutes celles et ceux qui s'engagent pour la justice. Il faut prendre la mesure de ce que ça implique, parce que c'est pas encore des mesures qui ont pénétré le reste des mouvements sociaux. Le gel des avoirs, aujourd'hui, il utilise le prétexte de la lutte antiterroriste, mais ils ne l'ont pas encore appliqué comme ils l'ont fait pour d'autres lois, pour dissoudre des organisations antifascistes ou écologistes, etc. Mais ça arrive. Donc je le dis non seulement pour nous, arabes, musulmans, qui luttons contre l'arbitraire, mais pour tout le mouvement social, pour toutes les organisations politiques qui se veulent dans l'opposition à ce gouvernement. Ce qui nous arrive, vous arrive. Et à nous d'être efficaces et solidaires. Ce que veut faire le gouvernement, c'est de nous diaboliser, de nous rendre infréquentables, mais si on n'est pas solide et solidaire, effectivement, ce qui arrive aujourd'hui aux organisations palestiniennes, aux militants des luttes anticoloniales, ça va arriver à toutes les forces qui s'opposent à ce système, a fortiori si la Samahallah arrive un pouvoir encore plus radical dans son fascisme et son racisme, et c'est quand même quelque chose qui nous pend au nez si on n'est pas très efficace et organisé.
Vous expliquez dans le livre que la répression impose des contraintes, mais peut aussi renforcer créativité et exigence. En quoi ces contraintes ont-elles transformé votre manière d'agir et de militer? Si vous pouvez nous donner quelques exemples concrets.
Inna ma'al usri yusra, c'est une promesse divine, c'est une loi cosmique. Dans ces moments d'épreuve, il y a une opportunité. Notre responsabilité, c'est de trouver l'endroit où elle réside. On peut se plaindre de la répression et des contraintes qu'il y a dans le contexte français notamment. Ce qu'on a expérimenté, nous, finalement, c'est que cette répression, elle nous a obligés à être beaucoup plus précis, beaucoup plus rigoureux dans notre expression. On peut pas dire tout et n'importe quoi, mais ça nous empêche pas de continuer à dire, j'espère, des paroles de vérité et de justice. Ce qu'on a traversé aussi, c'est une exigence d'être plus organisé dans le collectif. On voit bien que des individualités aussi compétentes, aussi volontaires qu'elles soient, sont beaucoup plus faciles à stopper par un pouvoir arbitraire. Et donc notre capacité à faire corps collectivement, c'est aussi une des forces qu'il s'agit de cultiver pour nous. Nos capacités organisationnelles, des formes de discipline militante qui étaient un peu oubliées, mais parce que on a été peut-être bercé dans une ère de réseaux sociaux où chacun fait un peu ce qu'il veut et dit ce qu'il veut et on s'organise souvent de façon un peu libérale finalement. Tout ça pour moi c'est des mythes dont il a fallu revenir. Et donc notre capacité à réhabiliter aussi tout cet héritage des luttes anticoloniales, où il y a la discipline collective, où il y a la discipline organisationnelle, c'est aussi des choses qui me semblent être le fruit finalement positif de cette répression qui s'est abattue sur nous.
Les notions de résistance du peuple palestinien, d'antisionisme ou encore de décolonisation sont très débattues. Comment définissez-vous ces termes et comment répondez-vous aux critiques qu'ils suscitent dans le débat public?
Alors pour tout dire, j'aimerais que ces questions soient plus débattues et plus librement débattues. Il y a quand même déjà une réalité terrible, c'est qu'il y a une interdiction du débat dans l'espace public francophone et français en particulier. Parler de résistance palestinienne, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire en prenant mille pincettes parce que les accusations et poursuites pour apologie du terrorisme arrivent très facilement. De la même façon, parler de décoloniser la Palestine et donc de mettre fin au régime colonial sioniste, parler de la libération de la mer, de la Palestine, de la mer au Jourdain, pardon, c'est quelque chose qui potentiellement tombera sous le coup de la loi si après la loi Yadan, Aurore Berger poursuit ce projet gouvernemental de criminaliser notre expression. Et donc, moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a beaucoup de débats nécessaires qui restent très largement empêchés, parce qu'en plus des lois, il y a aussi toutes ces censures, des salles municipales qui sont refusées à des associations locales, des universités qui refusent d'ouvrir l'espace du débat même académique, mais aussi du débat citoyen dans les universités. Et enfin, cette peur qui vient tétaniser de plus en plus de gens et une réalité aussi du paysage médiatique qui s'est terriblement contracté. J'en profite encore une fois pour saluer le travail que vous faites ici à Mizan de rendre possible ce débat. Et c'est un débat stratégique, c'est un débat intellectuel, mais c'est surtout, je crois, un débat qui est une question de vie ou de mort, en fait, pour nous toutes et tous. On va continuer de l'avoir et continuer de le faire vivre. Je ne sais pas s'il faut répondre plus précisément à ces questions, mais oui, la résistance palestinienne est une résistance héroïque contre un colonialisme génocidaire et on doit tout faire pour la soutenir. Et j'affirme aujourd'hui, avec Urgence Palestine, que on a une responsabilité à soutenir les résistances anti-impérialistes au sens large aujourd'hui. À l'heure où les Israéliens et les Américains attaquent tous les peuples de la région, il faut saluer aussi la résistance anti-impérialiste en Iran, au Liban, et sortir aussi de ces clivages, de ces façons parfois caricaturales de regarder les uns comme étant les ennemis des autres. Il y a une recomposition à l'œuvre aujourd'hui, des alliances nécessaires, des projets politiques qui doivent animer nos peuples dans cette région du monde. Et le message général, c'est celui de l'unité face à l'ennemi principal qu'est l'impérialisme et le colonialisme sioniste.
Parler de la notion aussi d'antisionisme, qui est très décriée en Europe et en France. On assimile l'antisionisme à l'antisémitisme, alors que beaucoup de communautés juives au début du siècle étaient antisionistes. Même aujourd'hui, vous avez des rabbins antisionistes. Comment vous interprétez ces débats autour de ce terme-là?
Moi, j'ai l'impression qu'il y a surtout une volonté du pouvoir dominant d'imposer une doxa, une opinion autorisée, toutes les autres étant par défaut interdites. Et donc, il y a une criminalisation de nos pensées, il y a une criminalisation de nos expressions politiques et une interdiction du débat intellectuel. L'antisionisme, en fait, c'est une évidence pour les Palestiniens, parce que le sionisme a été partout un projet colonial, d'une violence qui s'est imposée par la force brutale des canons, du nettoyage ethnique. Le sionisme est la négation de l'existence même de notre peuple. Et donc, par notre présence, par notre affirmation de notre existence, nous sommes, par nature, par notre ADN, notre sang est antisioniste, notre existence sur Terre est antisioniste, et au-delà du seul peuple palestinien, il est légitime et évident pour toutes celles et ceux qui récusent le colonialisme de s'opposer à ce projet qui est né, certes, dans la matrice d'une Europe coloniale, raciste, antisémite, qui, quelque part, a voulu, en fait, sur le dos du peuple palestinien, se débarrasser de ces minorités juives persécutées, au point que l'Europe a collaboré au génocide nazi très largement. Mais tout ça, c'est une histoire européenne, et en aucun cas, nous, Palestiniens, n'avons vocation à faire les frais de ces terribles tragédies historiques. Et donc, notre lutte antisioniste, elle est une lutte contre le racisme sous toutes ses formes, une lutte contre le colonialisme, elle est une lutte qui redessine justement les possibles des coexistences de nos différentes communautés. Et moi, je réponds souvent, en fait, aux personnes qui, depuis le confort de l'Occident, depuis ces histoires qui ont souvent été des histoires de collaboration avec les nazis, de participation au colonialisme, en gros, les Français qui me disent « Alors, qu'est-ce que vous allez faire une fois la Palestine libre ?» Ben, je leur réponds « Regardez notre mouvement. La richesse de notre lutte de libération, c'est qu'elle est dirigée par des Palestiniens en résistance, avec une infinie diversité dans nos rangs de personnes qui, arabes, musulmanes, chrétiennes, juives, athées, se rassemblent derrière la bannière de la justice et de la libération qui est le drapeau palestinien. Et donc, je me plais à dire des fois que notre mouvement de libération, il est à l'image de la Palestine libre à laquelle on inspire. Notre antisionisme, c'est la plus belle proposition d'émancipation pour toutes celles et ceux qui aspirent vraiment à l'égalité et à la dignité sur cette terre.
In the shadow of the wall, where the dust clouds rise, a story of a people reflected in their eyes, broken homes and scattered dreams, a world of black and white, but a flicker of a spirit burns ever so bright. Through the bitter taste of sorrow and the chill of winter's night, a melody of laughter, a beacon in the fight. To find sleep, the scent of za'atar in the air, a taste of what was lost, a memory of sunshine, whatever be the cost. From the bustling streets of Ramallah to the shores of the blue sea, a nation's souls whispering, we'll one day be free. Spirit of a people will answer freedom.
Après cette composition musicale de la chanteuse palestinienne Rim Banna, nous reprenons l'entretien du militant d'urgence palestine Omar Al-Soumi, qui présente son livre « Enfants de Gaza » sur la chaîne YouTube Mizan TV et qui précise comment les Palestiniens résistent pour leur survie à Gaza.
Pour affronter l'injustice de l'ordre colonial, partout où ils résistent par tous les moyens nécessaires, y compris dans ce travail que font les journalistes, les soignantes dans les hôpitaux, ces pères et mères de famille qui accueillent des orphelins. Tout ça, c'est la résistance palestinienne qui nous unit et qui nous oblige. Et donc, pour être plus efficace, effectivement, je pense qu'il faut venir puiser à cet endroit. Et c'est des messages qui nous viennent, encore une fois, de Gaza, mais aussi de ces prisons où les prisonniers nous disent. C'est dans la lecture du Coran, c'est dans ces litanies, c'est dans ces pratiques collectives que, malgré la torture, ils arrivent à tenir bon et à garder le cap de la lutte de libération.
Vous l'avez un peu abordé, vous avez fait un panorama des moyens de lutte. J'aimerais vous poser une question assez claire et concrète. Aujourd'hui, les populations en Europe qui voudraient aider le peuple palestinien, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et qu'est-ce que fait Urgence Palestine en parallèle de ça?
Urgence Palestine, c'est un outil de lutte politique. Et donc, si on doit lutter par tous les moyens nécessaires, en Europe, en France, notre vision en tant que Palestinien en lutte pour la libération de nos terres et de notre peuple, c'est qu'il faut aujourd'hui être les ambassadeurs, ambassadrices de la résistance palestinienne légitime telle qu'elle est aujourd'hui sur le terrain. Et donc, notre travail politique, il exige d'abord de mobiliser, de faire passer notre message, d'organiser des manifestations, des événements, des conférences, des projections de films dans les universités, dans les quartiers, et donc d'occuper le terrain pour que notre vision politique, notre narration, notre histoire soit racontée par nous-mêmes, par le maximum de monde possible. Et ça, ça doit se traduire ensuite par une capacité à peser politiquement. Et donc peser politiquement, ça veut dire rappeler à l'ordre ceux qui ont du pouvoir, quelle qu'en soit la forme, quand ils dévient de cette narration, de cette exigence de vérité et de justice qui est la nôtre. Quand la résistance du peuple palestinien est qualifiée de terroriste, on a un devoir d'intervention. Quand il y a génocide en totale impunité, nous avons un devoir d'intervention. Et ça, ça se traduit par exemple par les appels au boycott des organisations, entreprises et personnes complices du génocide. Et là, on parle bien sûr de Carrefour, mais aussi de ces salles de spectacle qui accueillent des promoteurs israéliens du génocide et de cette armée coloniale. Cette lutte, c'est aussi une lutte qui va se traduire en plus du boycott dans le domaine juridique. On est la première organisation qui a obtenu d'ouvrir une brèche dans ce mur d'impunité dont bénéficiaient les génocidaires sionistes. Par notre travail collectif, on a pu obtenir que Nelly Kupfer et d'autres promotrices de ce génocide se retrouvent non seulement avec des poursuites pour génocide ou complicité de génocide, mais aussi avec des perquisitions et des ouvertures d'enquête par le parquet national antiterroriste contre ces personnalités sionistes. C'est pas complètement anodin. On pourrait lister ainsi les victoires de notre mobilisation qui articule le populaire, le politique, le juridique et le médiatique, mais quand on dit par tous les moyens nécessaires, c'est notamment à cet endroit-là qu'on cite une autre action. Après, il y a aussi tout le travail qui est aussi extraordinairement important autour de l'information, autour de la propagation des contenus qui viennent de Palestine.